Allez, on démarre avec des mots qui ont occupé toute ma semaine, jour et nuit, rigueur et austérité. Oui, fais-moi mal, Johnny, Johnny. Le mot a été lâché enfin. Enfin, par Gabriel Attal, rigueur. Pendant ce temps, Bruno Le Maire, alors il y a deux Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, puis Bruno Le Maire qui critique le ministre de l'économie. Et ben, Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, lui explique qu'il n'y aura surtout, surtout jamais, il ne faut jamais le dire ce mot-là, d'austérité, mais avec un déficit public à 5,5%, est-ce qu'on a le choix? On sent tout de même la panique montée du côté des politiques, mais qui va avoir le courage de prendre la situation en main? Et surtout, Ben Aouda, au sein de l'Europe, est-ce que l'Allemagne va un jour siffler la fin de partie et nous dire, bon les gars, nous on peut pas respecter des règles d'endettement qui sont très strictes et vous donner un chéquier pour faire n'importe quoi?
Vous vous souvenez peut-être, au début de cette saison 2023-2024, on avait beaucoup glosé sur un article qui a été publié dans le Spiegel, c'était au mois de septembre,
oui,
pour dire la France et l'Allemagne ont mieux. Et c'était une ode à l'économie allemande. À l'époque, on était un certain nombre à expliquer que ça allait se retourner, mais aussi vite et aussi violemment, c'était difficile de le concevoir. Il y a eu un éditorial dans le Handelsblatt, le quotidien économique allemand cette semaine, qui il va au lance-flammes pour dire que la France, non seulement en train de devenir un risque pour elle-même, mais en train de devenir un risque pour l'ensemble de l'Europe, en expliquant que la nonchalance avec laquelle, c'est le terme qui a été employé, la France était en train de gérer ses finances publiques était inadmissible, qu'il fallait maintenant que le gouvernement français ait le courage, et encore je reprends exactement les termes de cet éditorial, de tenir face à l'ensemble des groupes de pression pour gérer cette déliquescence de l'État-providence français. Ils s'en prennent notamment aux agriculteurs. Ils disent qu'on ne peut pas à la fois promettre un redressement des comptes publics sans avoir un langage de vérité sur les impôts, sur les dépenses, etc. Donc c'est vraiment une sorte de retournement en 7 mois de l'appréciation allemande, donc de la zone euro, par rapport à la France.
Mais la fin de partie, moi je comprends tout ce que vous me dites, mais moi ce que je me dis tous les jours, mais vraiment tous les jours, je me dis mais comment ils acceptent ça? Parce que finalement, nous on est en toute impunité. Qu'est-ce qui nous empêche de continuer? On emprunte à 2,8%, c'est aberrant comme taux, on continue à dépenser, on fait semblant, on raconte n'importe quoi en disant, vous inquiétez pas, on va y être à 3% 2027-2028, mais on peut continuer en toute impunité.
Alors, pour deux raisons, certainement. Une qui est explicitée dans une note de la banque ING, la banque néerlandaise, c'est que les Allemands et puis les principales puissances de la zone euro se disent ils ont jusqu'à septembre, avec au moment de déposer la loi de finances à Bruxelles pour examen, ce qui est quand même assez loin, septembre. Et l'autre raison, c'est une autre déliquescence, c'est celle de la majorité du chancelier Olaf Scholz, où chacun tire à huée à dia, où il n'y a pas de ligne directrice et où on a l'impression qu'il ne peut pas y avoir de langage commun. Un ministre des Finances qui parle ne parle pas comme le ministre de l'Économie, la ministre des Affaires étrangères ne parle pas comme le ministre des Finances.
Donc c'est notre chance.
C'est d'une certaine manière, c'est de s'appuyer sur cette absence de leadership interne en Allemagne pour pouvoir continuer, somme toute, à mener cette politique de finances publiques. Et un dernier point, il y a aussi le fait qu'il y ait ce contexte géopolitique
évidemment
extrêmement grave autour de l'Europe, qui fait que les Allemands ne veulent en aucun cas et ne peuvent en aucun cas remettre en cause cette assise
politique. Donc on peut continuer encore pendant des mois en roue libre. Personne va nous emmerder, quoi.
D'une certaine manière, parce que en cherchant juste avant de venir à cette émission, j'ai lu une interview de la directrice générale du Fonds monétaire international, El Mundo, le quotidien espagnol, qui disait que la France, l'Italie et l'Espagne devaient absolument se serrer la ceinture. C'était au mois d'octobre 2023. On a quelques mois qui sont passés, mais pour l'instant, il n'y a
que... Et les autres l'ont fait, mais nous, on ne l'a pas fait. Exactement. Valentine ?
La France aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins. Hein. Et si on regarde le vrai sujet pour ce déficit, c'est les niveaux des dépenses. On n'est aujourd'hui pas revenu sur les niveaux des dépenses qu'on avait avant le Covid. On continue avec cette politique du quoi qu'il en coûte. Le problème, c'est qu'on est dans un niveau de taux qui n'est absolument plus le même que celui qu'on avait en 2019. Et si on regarde la charge d'intérêt, elle a considérablement augmenté ces dernières années. Hein. On tourne aujourd'hui autour de 55 milliards. On sera à 75 milliards en 2027 si rien n'est fait, ce qui correspond, bon an mal an, au budget de l'éducation. Alors, est-ce que c'est un sujet grave en instantané. Je dirais non, mais avoir un niveau de dette élevé et un niveau de remboursement d'intérêt élevé, ça limite toute capacité à faire face à n'importe quel choc. Ça, c'est important. Et c'est également, ça oblige, ça limite toute capacité à investir dans demain. Mais si on regarde aujourd'hui, qui va sonner la fin de la partie? Qui pourrait la sonner? C'est pas forcément l'Allemagne, mais c'est aussi les marchés. Mmh. Les marchés financiers.
Mais les marchés, il y a beaucoup de liquidités.
C'est ça.
Il n'y a pas beaucoup d'emprunts allemands parce qu'il y a des règles d'endettement qui sont très fortes. Donc on cherche du rendement, donc on va vers la France.
Les marchés sont vraiment bienveillants. Hein. Et si on regarde depuis le début de l'année, il y a eu énormément d'émissions sur les marchés financiers en nombre record. Les États de la zone euro ont peut-être aujourd'hui, à la fin du premier trimestre, ont refinancé plus d'un tiers de leurs besoins de refinancement en brut pour l'année, et largement plus si on regarde les besoins en refinancement net. Si on regarde le taux 10 ans, comme tu parles, il a baissé depuis octobre.
On se tutoie maintenant. Non, mais c'est pas grave.
De 3,5 à 2,8, donc il a fortement baissé. Ce qui pourrait peut-être mettre un peu de stress, c'est les agences de notation.
C'est quand la prochaine échéance?
Ça va être fin avril, début mai.
Je souhaite qu'on soit vraiment...
Et les agences de notation.
On soit sanctionnés, parce que je me dis, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, il ne se passera rien. William, votre job, c'est de regarder des boîtes qui sont bien gérées. Hein. Vous êtes l'ayatollah de la value. En value, la France, c'est pas terrible, non?
Non, c'est pas terrible, mais il faut dire aussi qu'on avait un président de la République qui, toutes les semaines, annonçait 1 milliard d'euros de dépenses nouvelles. Donc effectivement.
Mais quel est votre jugement en tant que gérant, vous qui avez l'habitude de voir des directeurs financiers, des patrons gérer leur boîte? Je sais qu'un pays c'est pas une boîte, mais vous dites mais comment, c'est-à-dire la France serait une boîte, on serait en faillite. Mais comment vous jugez ça avec votre recul de gérant?
Non, mais d'abord il y a quand même une culture de gauche qui aime bien la dépense publique, et face à ça, on a eu le Covid qui a légitimé la dépense.
C'est ça, donc et on est rentré là-dedans. Enfin, quand vous dites de gauche, je dirais de droite aussi, parce que tous les gouvernements ont fait à peu près la même chose. Mais Naouda, j'ai une question sur l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, si la France est à la croisée des chemins, l'Allemagne est aussi à la croisée des chemins. Problème de business model, il va falloir qu'ils lâchent les vannes. Ils ont les moyens de faire une relance et d'avoir une croissance phénoménale pour les 3 ans qui viennent, rien que dans la transition écologique. Qu'est-ce qui peut vous parler du problème politique de l'Allemagne? Qu'est-ce qui peut faire que ce verrou politique saute pour que l'Allemagne reprenne son souffle?
Il faudrait une autre coalition que celle-ci.
Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait une autre coalition que celle-ci?
C'est très difficile à l'envisager, sachant que chacun a beaucoup à y perdre. Les sociaux-démocrates perdraient la chancellerie, les Verts perdraient ce rôle de faiseur de roi avec un ministre de l'économie, un ministre des Affaires étrangères, et le ministre, le FDP, les libéraux-démocrates, enfin les libéraux, pourraient perdre tout simplement leur représentation au Bundestag. Donc, dans ce cas-là, c'est que chacun essaye de se tenir les coudes, malgré tout, pour tenir encore deux.
Donc l'Allemagne est cuite encore en termes de croissance, parce que s'ils font pas de relance, ils auront pas de croissance.
Et c'est pour l'instant, c'est quelque chose malgré tout d'inenvisageable, à moins que, et c'est une hypothèse, mais encore une fois c'est une hypothèse d'école, oui, que les sociaux-démocrates reviennent à la configuration précédente, celle avec Angela Merkel, et lancent une grande coalition avec les chrétiens-démocrates, et qui est à ce moment-là une immense majorité au Bundestag, et qu'ils aient l'assise possible pour pouvoir relancer d'un point de vue budgétaire leur machine. Mais tout ça relève de la spéculation politicienne, et à chaque fois ceux qui disent que telle ou telle partie de la coalition va se retirer, ils sont démentis ensuite parce que chacun...
En tout cas, il faut espérer que ça se fasse, parce que à la fois pour l'Europe, parce qu'une Allemagne qui est au point mort, c'est terrible, et à la fois pour la France, parce que si personne ne vient nous donner des coups de bâton, on va continuer à faire n'importe
quoi. Il n'y a aucune hypothèse où l'Allemagne pourra venir donner des coups de bâton. Vu de l'extérieur, en Chine, aux États-Unis, etc., en Amérique du Sud, la France, par son caractère stratégique politico-militaire, c'est elle qui tient la baraque européenne.
En fait. C'est déprimant, en fait. Pascal.
Ce que je trouve très compliqué dans la situation actuelle, c'est qu'on dépense énormément d'argent, mais c'est la destination des dépenses, moi, qui me dérange, en fait. Parce que ces dépenses-là, elles ne vont pas dans des secteurs qui vont nous permettre de nous enrichir.
Ce n'est pas de l'investissement.
Mais ça devrait justement être de l'investissement. Non, et là, vous pouvez justement opposer les deux modèles. Vous avez les États-Unis d'un côté qui ont une politique budgétaire expansionniste qui permet d'enrichir le pays, et l'Allemagne de l'autre côté qui est dans cette très forte austérité. Et on voit bien quand même que, même si ce n'est pas la seule raison, le pays aujourd'hui est en récession. inflation, effectivement, il nous manque cette impulsion pour que ça reparte. Donc, je ne sais pas comment ça peut se résoudre, mais en tout cas, les dépenses qu'on fait aujourd'hui, ce ne sont pas les bonnes.
Parce que si on s'enrichit... C'est pas très rassurant, quoi.
Oui, mais si on s'enrichit, vous améliorez votre ratio de dette sur PIB. Bien sûr. Et donc, évidemment, vous avez beaucoup moins ce sujet de financement de la dette. Vous rassurez les agences de notation.
C'est pas un bouclier
qui
va nous créer de la croissance. Ça, c'est certain.
C'est exactement ça.
Allez. Mais vu de l'extérieur, on se rend compte, et ça c'est intéressant de voir de l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas de majorité en France parlementaire, donc il ne peut pas y avoir de remise en cause majeure. Donc dans ce cas-là, il faut attendre qu'il y ait une autre majorité, laquelle, ça c'est une autre question.
On est mal barré alors.